France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano, Sacha Mattei et Christelle Anger, réalisé par Sam Bakia. C'était à la technique ce matin, c'est Alex Dong. C'est l'une des fêtes les plus importantes de la culture chinoise. Le nouvel an lunaire, mercredi, sera célébré dans le monde entier par les diasporas, l'occasion d'une série dans Culture Monde sur les diasporas chinoises. On parlera demain des nouvelles générations installées en Europe et de leurs nouvelles aspirations. Mercredi, celles et ceux qui tentent la roue de la fortune en Afrique. Jeudi, le blues des étudiants chinois en Australie ou en France, entre autres. Aujourd'hui, la diaspora chinoise en Asie du Sud-Est, ici en Thaïlande, où cet artiste d'origine chinoise joue sur ces deux cultures.
Nous offrons cet opéra chinois à notre divinité. C'est comme cela que nous entretenons le lien avec elle. Elle nous protège. Étant issu d'une famille chinoise, c'est mon devoir de le faire. J'ai grandi avec deux cultures. J'ai suivi l'enseignement bouddhiste, mais comme mes parents, je vénère des divinités chinoises depuis toujours.
Nous, les Chinois, nous sommes travailleurs, gentils, honnêtes et nous inspirons naturellement confiance aux locaux.
Avec le temps, nous avons fini par nous connaître de mieux en mieux avec mes collègues laotiens. Maintenant, pour moi, ce sont des amis, même des frères. On est une famille.
Une grande famille à laquelle appartient par exemple, et c'est un visage parmi d'autres, cet homme conduisant une limousine noire et fumant des cigarettes anglaises. Cet homme qui tremble en s'adressant pour la première fois à une jeune femme blanche, Marguerite Duras, qui dans son roman L'amant l'appelle aussi le Chinois. Un jeudi, il vient la chercher à sa pension et l'emmène à Cholon, à l'opposé, écrit Duras, des boulevards qui relient cette ville chinoise au centre de Saïgon. Il fait sombre dans son studio, elle ne lui demande pas d'ouvrir les persiennes, mais ceci est une autre histoire. Au Vietnam donc, comme en Thaïlande, en Corée du Sud, en Malaisie ou en Indonésie, des milliers de Chinois se sont installés dès le XVIIe siècle après la chute de la dynastie Ming. Certains entretiennent toujours des liens très forts avec la Chine, d'autres ont simplement des origines chinoises. Certains ont pris la nationalité de leur pays d'adoption, d'autres non. Et ceux-ci sont considérés par Pékin comme des Chinois d'outre-mer. Ils servent parfois de relais au régime chinois pour investir dans la région ou pour tout autre intérêt à défendre. Comment les diasporas chinoises d'Asie du Sud-Est se sont-elles structurées et comment ont-elles été accueillies? On en parle ce matin avec nos deux invités. Bonjour Karine Pina.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue.
Avec plaisir.
Vous êtes chercheuse à l'IRSEM et vous avez écrit La Chine et sa nouvelle diaspora, la mobilité au service de la puissance, paru aux éditions Ellipse. Vous êtes ici en studio avec Arnaud Levaux. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous également, professeur associé à Dauphine. Vous avez pour votre part écrit Le destin des fils du dragon, paru il y a quelques années aux éditions L'Harmattan. D'abord, puisque le point de départ de notre série, c'est ce nouvel an lunaire qui va être fêté dans le monde entier mercredi. Quelle importance prend cette fête-là, en particulier Karine Pina, dans les diasporas chinoises d'Asie du Sud-Est, ces célébrations? Comment est-ce qu'on s'y prépare aux festivités d'après-demain?
Alors, comme vous l'avez bien souligné, hein, le nouvel an chinois est probablement le moment annuel de la diaspora chinoise, puisque c'est un moment au cours duquel les personnes chinoises ou d'origine chinoise, de par le monde, expriment une forme d'identification à la culture de leur pays d'origine, sans pour autant y inclure l'état politique. Mais effectivement, donc, c'est un moment de fête et un moment de culture commune. Donc, aujourd'hui, en Asie du Sud-Est, à nouveau, les communautés chinoises anciennes et nouvelles fêtent ce nouvel an. En Indonésie, on appelle, désolé pour la prononciation, Tahun Baru Imlek. Dans le monde malais, Malaisie, Brunei, Singapour également. Et puis, bien sûr, hein, au Vietnam et en Thaïlande.
Oui, vous, Arnaud Levaux, vous connaissez davantage ces pays-là. Vous, Karine Pina, la Malaisie, l'Indonésie, c'est vraiment vos terrains d'études. Vous, Arnaud Levaux, peut-être davantage la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge. Comment est-ce qu'on se prépare à ces fêtes?
Au Vietnam, c'est particulier parce que le Vietnam a aussi le calendrier lunaire. Ils appellent ça le Tet et on célèbre le nouvel an lunaire.
Donc, même sans la diaspora chinoise, on le fête.
Corrobore à la même date que le nouvel an chinois. chinois. Donc là, c'est une fête nationale majeure qui est le grand événement où le pays s'arrête pendant une dizaine de jours, où on visite la famille. C'est le grand événement de l'année, comme en Chine. En Thaïlande, aujourd'hui, c'est devenu un événement essentiellement commercial. Le quartier chinois de Bangkok et à Ouarat s'apprête à accueillir plus de 2 millions de personnes en quelques jours avec des festivals de toutes sortes. Et puis depuis un mois, dans les centres commerciaux, vous avez de la musique traditionnelle chinoise, un peu comme avant Noël dans la région. C'est devenu un élément clé de la culture locale.
Alors aujourd'hui, ces fêtes sont célébrées ouvertement en public. Ça ne pose plus de problème. Ça n'a pas toujours été le cas. Et vous aurez l'occasion, Karine Pina, de nous parler notamment de l'Indonésie, où jusque dans les années 80 à peu près, le gouvernement interdisait toute manifestation de sinité dans l'espace public. Donc ces fêtes du Nouvel An étaient beaucoup moins visibles, puisque tous les pays d'Asie n'ont pas accueilli avec la même ouverture ces immigrés chinois, qui de leur côté n'entretiennent pas les mêmes liens avec leur pays d'origine. À quand est-ce qu'il faut faire remonter l'histoire de l'immigration chinoise, Arnaud Levaux?
Alors, elle est extrêmement ancienne. Les premières implantations chinoises en Asie du Sud-Est, dans le nord du Vietnam, remontent au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, en fait, il y a eu des vagues régulières, d'abord liées aux conquêtes militaires chinoises, avec des militaires, des soldats démobilisés, eh bien, qui partaient s'installer dans les environs, des fonctionnaires bannis au moment de changements dynastiques, et à chaque grand bouleversement intérieur chinois, il y a eu des vagues d'émigration extrêmement importantes. Sous la dynastie des Song, il y a eu l'essor de la navigation qui a permis aussi de développer le commerce maritime entre le sud de la Chine et le Nanyang, hein, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est. Au moment de la dynastie mongole, eh bien, il y a eu des départs de populations importants, notamment les Thaïs. Les Thaïs qui sont originaires du Yunnan en Chine, qui sont descendus progressivement s'installer dans la péninsule indochinoise, et ils ont été accompagnés dès le départ par des commerçants et des fonctionnaires chinois. Ça veut dire qu'il y a une relation qui est extrêmement ancienne.
Avec aussi, si on remonte un petit peu le temps, 16e siècle, la chute de la dynastie Ming. Est-ce que c'est le cas aussi? Parce que Karine Pina, en fonction des pays dont on parle, que ce soit plutôt la péninsule, enfin tout ce que vous connaissez mieux, la Malaisie, l'Indonésie et les pays dont on vient de parler, Arnaud Levaux, est-ce qu'on est sur ces mêmes dynamiques-là d'immigration?
L'immigration chinoise dans les pays, dans le Nanyang et dans les... surtout en Indonésie et Philippines, etc., date du 6e siècle. Donc, elle devient un peu plus importante au début de l'époque dite moderne, 1500-1740, mais c'est essentiellement une diaspora commerçante, de marchands. Et donc, en fait, dont le principal objectif est donc d'aller outre-mer, chercher à s'approvisionner. C'est une migration de marchands essentiellement Hokkien, c'est-à-dire qui provient d'une minorité du sud du Fujian. Et à l'intérieur de cette province-là, deux préfectures que sont Quanzhou et Zhangzhou. Ensuite, ces Hokkien se sont installés en Indonésie, aux Philippines et généralement donc dans les ports. Et là, en fait, ils ont établi des communautés qui pouvaient également se marier à d'autres, à des femmes d'origine locale. Ensuite, la deuxième grande vague, ce que Miles, qui est un des grands spécialistes de la question, appelle l'âge de la prospérité, c'est 1740-1840, puisque c'est l'âge d'or de la dynastie, là aussi, des Qing. Et là aussi, on a une diaspora de marchands, donc qui continue, de Hokkien, qui continue à grandir dans un certain nombre de ces pays. Elle est aussi à cette époque-là à l'origine, enfin on voit à cette époque-là l'augmentation d'une autre migration de marchands qui est d'origine Hakka, qui est du nord-est du Guangdong, et des Teochew qui sont ou Chaozhou, qui eux sont plutôt de l'est du Guangdong.
C'est vrai que c'est toujours intéressant de se dire qu'en fonction des régions dont on parle en Asie du Sud-Est, les communautés chinoises se sont constituées aussi en fonction de leur région d'origine. En Chine, on crée des solidarités locales, on fait venir parfois des membres de leur famille. Et au 19e siècle, en quelques mots, Arnaud Levaux, les coulisses, ceux qu'on appelle les coulisses, qui arrivent par milliers pour...
Et effectivement, en fait, après la chute de la dynastie Ming, comme vous le disiez, il y a eu une accélération de la migration chinoise, notamment vers le Vietnam. À la fin du 18e, Cholon, dont vous parliez, a été créé par des loyalistes Ming, hein, ce fameux quartier chinois de Saïgon. Et puis à partir du 19e siècle, en fait, il y a eu l'arrivée des Européens et la fin de l'esclavage aussi. Et en fait, avec des besoins de main-d'œuvre importants, et beaucoup de Chinois sont passés comme intermédiaires entre les commerçants européens et les autorités locales des pays d'accueil. Et dans cette recherche de main-d'œuvre, eux allaient dans leur région d'origine et faisaient se déplacer des nombreuses populations. En Thaïlande, par exemple, en l'espace de 50 ans, il y a eu, je crois, plus de 1,6 million travailleurs qui se sont installés dans le pays, mais 900 000 sont repartis hein, à la fin de leur contrat, mais ces 100 000 sont restés.
Beaucoup sont restés donc ces coulisses, ces travailleurs pauvres qui étaient venus mettre leurs bras au service des entreprises coloniales européennes. Alors on pourrait décrire, mais ça prendrait beaucoup de temps, toutes les vagues d'immigration aussi plus récentes liées à la révolution culturelle en Chine ou à la pauvreté. On le disait, tous les pays d'Asie n'ont pas accueilli avec la même ouverture les immigrés chinois, Karine Pina, lesquels ont été d'abord les plus réticents. Et pourquoi en Indonésie notamment cette réticence dès les années Soekarno, le premier président de l'Indonésie à l'indépendance en 45?
Alors, les réticences de certains gouvernements en Asie du Sud-Est doivent être expliquées à la lumière des mouvements nationalistes qui naissent au début du XXe siècle. Et également à un certain nombre de changements dans la composition de ces communautés. Le fait est que lorsque ces mouvements nationalistes locaux hein, ont commencé, disons, à prendre forme et à vouloir l'indépendance de leur propre État, les communautés chinoises n'étaient pas forcément bien vues. Et un certain nombre déjà, y compris hein, avec les administrations coloniales, avaient commencé à émettre un certain nombre de restrictions quant, par exemple, aux écoles, hein, notamment au Siam, mais également au nombre d'immigrés. Hein. C'est la période fin du 19e, début du 20e, c'est aussi la période où on voit une tendance à limiter l'immigration chinoise dans ces pays-là. Alors, les restrictions, ou du moins les changements de politique à l'égard des communautés chinoises sont liés à la naissance et à l'indépendance de ces États qui étaient confrontés eux-mêmes à la nécessité de créer des États multi-ethniques. Multi-ethniques avec également des différences sociales. Et il est vrai que une partie, mais pas tout, mais une partie des communautés chinoises avait un niveau de vie plus important, possédait de fait, parce que l'histoire les avait amenés à être des commerçants, possédait également tout ce qui était une sorte de monopole sur les commerce de détail. Mmh. Et également, certains d'entre eux, mais pas tous, étaient également des intermédiaires avec les puissances coloniales. Donc, lorsque ces États, hein, que ce soit la Malaisie ou l'Indonésie, ont accédé à l'indépendance, il fallait justement à la fois mettre en place des politiques qui puissent favoriser les personnes d'origine malaise et parfois également au détriment des populations d'origine chinoise. Le fait est que ces indépendances hein, ont eu lieu dans les années 50, 60 et 70, donc en pleine guerre froide et bien sûr avec un État communiste chinois qui a également influencé la position de ces nouveaux gouvernements. Là aussi, il y avait également, et qui explique un certain nombre de mesures à l'encontre de ces communautés, des insurrections communistes qui, de fait, avaient pas dans leurs membres des personnes d'origine chinoise, mais plus parce qu'elles étaient ouvrières ou étaient, disons, travailleurs et exigeaient d'autres choses que parce que menées par une révolution exportée par la Chine.
Mais voilà qui rend néanmoins suspect tous les Chinois, par exemple en Malaisie, quand le 13 mai 69, des émeutes éclatent à Kuala Lumpur. Ce survivant, on peut le dire, se rappelle d'origine chinoise, il se souvient de ce qui s'est passé ce jour-là.
J'étais au cinéma et il était environ 8h du soir, quand à la moitié du film, dans l'obscurité de la salle, une foule a fait irruption et a commencé à charger sur nous. Je me suis échappé du cinéma et j'ai couru me réfugier dans un café voisin. Dans la rue, j'ai enjambé des corps. Autour de moi, il y avait des émeutiers en robe blanche. Ils ressemblaient à des Indiens musulmans. Moi, je portais une chemise imprimée et colorée. Ils m'ont facilement repéré et ils me lançaient des projectiles qui s'écrasaient à mes pieds. Je criais « Je suis chinois !»
Que s'est-il passé ce jour-là, le 13 mai 69, à Kuala Lumpur, Karine Pina?
Le fait est que le gouvernement malais avait décidé de modifier les écoles et fermer un certain nombre d'écoles. Et donc, des parents de ces élèves voulaient protester et donc demander à ce qu'il n'y ait pas ces fermetures. Et ça a provoqué un mécontentement de la population, disons, halogène, et des heurts entre ces populations, mais certainement, c'était plus une excuse que quelque chose de réel, quoi. C'était, voilà.
Avec énormément donc de facteurs qui s'entremêlent, puisque vous le disiez, il peut y avoir quelque chose de l'ordre du culturel dans un pays, la Malaisie, qui compte aussi beaucoup de Malais, beaucoup de musulmans, en Indonésie aussi, avec des exactions menées contre les populations chinoises au cours de l'histoire. Et puis, cette question de la guerre froide, c'est le cas Arnaud Levaux au Vietnam, qui a eu avec la Chine de très gros différends dans l'histoire, d'abord parce que le territoire actuel du Vietnam a été pendant des siècles sous domination chinoise, et plus récemment au temps de la guerre froide où les deux régimes étaient communistes, mais où la confiance du Vietnam allait non pas à la Chine mais à la Russie. C'est assez compliqué, mais comment ça s'est manifesté à l'encontre là des populations chinoises du Vietnam?
Effectivement, il faut se rappeler que la dernière guerre entre le Vietnam et la Chine remonte à 1979, et que ça a été le mouvement dont on a beaucoup parlé des boat people. Une bonne partie des boat people qui ont quitté le Vietnam à ce moment-là étaient en fait des Chinois du Vietnam, mais aussi du Cambodge, parce que le régime Khmer Rouge au Cambodge, qui s'attaquait avant tout à l'élite éduquée du pays, qui était en grande partie composée de personnes d'origine chinoise, ont été les premières victimes de ce génocide.
Donc davantage parce qu'ils étaient commerçants et donc plus riches que la moyenne que parce
Exactement.
Qu'ils étaient chinois.
Exactement.
Et au Vietnam, cette animosité a
longtemps
continué.
C'est une animosité ancienne, en fait, ça remonte à 10 siècles, parce que toute l'histoire du Vietnam, c'est comment essayer de développer une indépendance et se dissocier du monde chinois. En ça, l'alphabet aujourd'hui utilisé par les Vietnamiens, qui est un alphabet romanisé, a permis d'accélérer un peu la césure entre le monde chinois et le monde vietnamien. Cela étant, il reste extrêmement imbriqué.
Et quand Pékin a déclaré la guerre au Vietnam et envahi son voisin en 79, d'ailleurs le régime chinois arguait de la sécurité de la diaspora chinoise au Vietnam en disant qu'elle était menacée et qu'il venait pour la défendre. Ce sont des antagonismes qui ont la peau dure. Comment est-ce qu'on peut expliquer par exemple les émeutes anti-chinoises qui ont eu lieu au Vietnam en 2014? C'est beaucoup plus récent.
C'est plutôt lié aux différends sur la mer de Chine du Sud, hein, parce qu'il y a un certain nombre d'îlots qui étaient contrôlés par le Vietnam, dont les Chinois ont pris possession à la fin de la guerre du Vietnam, en s'engageant à les rendre au Vietnam au terme de la guerre, et ce qui n'est pas fait. Et donc aujourd'hui, il y a toute une série de différends, et quand il y a eu une plateforme pétrolière chinoise qui s'est déplacée dans les eaux territoriales vietnamiennes, il y a eu un mouvement de mauvaise humeur extrêmement important, qui s'est attaqué aux entreprises chinoises, mais il y a eu un peu de confusion, parce que il suffisait qu'il y ait des caractères chinois pour que les émeutiers s'y attaquent, donc ça a attaqué aussi des usines taïwanaises, mais aussi des usines japonaises. Donc, il y a eu une grande confusion à ce moment-là. Aujourd'hui, la situation est de nouveau normale, mais cette tension persiste.
Et le régime autoritaire du Vietnam, qui est un régime à parti unique, qui d'habitude sait très bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de manifestations, là, les a laissés éclater ou s'est fait déborder? Est-ce qu'on a une idée de...
Je pense que c'est aussi une volonté de donner un message à la Chine en disant qu'il y a véritablement un désaccord de fond sur ces questions-là. Il y a un conflit frontalier maritime. Le parti a une position, mais il est soutenu par la population.
Vous parliez tout à l'heure de la Thaïlande en disant que les Thaïs étaient eux-mêmes originaires du Yunnan chinois. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on présente souvent la Thaïlande comme une exception, Arnaud Levaux, en disant que c'est là, sans doute, que les Chinois sont les mieux accueillis?
Alors déjà, ils sont extrêmement nombreux, hein. C'est près de 14 à 16% de la population. On les estime à environ 9 millions de personnes. Et puis, ils sont descendus avec les Chinois et au cours de l'histoire, les monarques Thaï hein, ou Siamois à l'époque avaient tendance à s'appuyer sur des commerçants chinois pour leur donner des postes à responsabilité, gouverneurs de province, collecteurs d'impôts, en se disant si ces personnes-là s'enrichissent et deviennent puissantes, elles ne se mettront pas en concurrence en termes de légitimité par rapport à moi. Donc en fait, il y a eu une volonté de s'appuyer sur ces communautés chinoises au détriment de l'aristocratie locale.
Mais pendant la guerre froide, la Thaïlande était plutôt du côté de ceux qui luttaient contre le communisme en disant ça va, sinon ça va se répandre dans la région, ce qu'a fait l'Indonésie. Les généraux qui sont succédés au pouvoir avaient cette obsession du communisme à l'époque, mais pas la Thaïlande, en tout cas pas vis-à-vis des Chinois alors.
Et en fait, c'est qu'une partie des Chinois installés en Thaïlande avait pris parti pour Taïwan et le Kuomintang. Et d'ailleurs, il y a de fortes communautés soutenant le Kuomintang installées dans le nord de la Thaïlande.
Alors Karine Pina, dans quelle mesure ces Chinois d'Asie, et encore une fois, on a bien entendu que l'un et l'autre, vous parliez de deux régions très différentes, mais vous connaissez l'Asie du Sud-Est en général, comment ces Chinois d'Asie se sont progressivement fondus dans leur pays d'accueil, ne serait-ce qu'en se mariant, comment les cultures se sont aussi enrichies les unes des autres?
On fait la distinction, ce qui montre qu'il y a des communautés chinoises. On fait la distinction dans de nombreux pays, que ce soit l'Indonésie ou les Philippines, entre les anciens chinois et les nouveaux. Les anciens ont aujourd'hui des cultures, disons, mixtes, voire même parfois ont perdu, ne serait-ce que la langue chinoise. Ils ne pratiquent, pour les anciens, parfois que le dialecte chez eux, mais ils ont perdu la pratique du mandarin, par exemple, à l'exception de Singapour ou de la Malaisie, pour ceux qui veulent le pratiquer, puisque l'enseignement de la langue fait partie des cursus. Donc, vous avez des communautés, par exemple en Indonésie, on les appelle les Peranakan, qui, eux, sont des personnes d'origine chinoise, mais qui ont intégré aussi la culture locale. Et donc, de ce fait, ça peut donner lieu à des cultures totalement mixtes. Et eux-mêmes se définissent d'abord en tant que Peranakan et Chinois locaux, avec quelques attributs peut-être culturels, mais avant tout en tant qu'Indonésiens. Pour les Mesistos aux Philippines, c'est la même chose, puisque c'est une communauté qui est très ancienne, qui peut avoir des attributs culturels chinois, mais qui, avant tout, se définissent comme des personnes philippines avec des caractéristiques culturelles chinoises de par leur long passé migratoire. Donc, de ce fait, il y a cette population-là était la plus importante lorsque donc ces États se sont constitués. Le fait est que leur insertion ou leur intégration a été facilitée, si on peut le dire, d'une part par les politiques des États locaux qui ont, disons, insisté sur leur intégration, alors par des mesures plus ou moins souples, on n'a pas le temps de les énumérer toutes, et ensuite parce que tout simplement les flux migratoires en provenance de la République populaire de Chine se sont taris, et donc tout ce qui était flux migratoire, circulation migratoire, voire institution migratoire, qui soutenait ces diasporas chinoises, se sont naturellement, disons, coupés. Et donc, de ce fait, il n'y a plus matière à maintenir des liens. Ensuite, même s'il y a eu des velléités dans les années 50 de maintenir ces liens, ce qui a été une coupure, mais une coupure ferme et définitive au niveau politique, ça a été la révolution culturelle entre 1966 et 1976. Et donc là, il n'y avait plus les liens qui pouvaient peut-être demeurer entre cette diaspora et le continent chinois, ou du moins les zones d'origine de ces migrants.
Ces liens qui se sont donc coupés pendant la révolution culturelle, qui ont repris d'une certaine façon quand Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir en 1978, avec, puisque vous parliez l'un et l'autre des politiques mises en place dans les pays d'accueil vis-à-vis de cette immigration chinoise, il y a aussi les politiques mises en place par la Chine, et c'est vraiment sous Deng Xiaoping que l'on commence à réfléchir à une véritable politique diasporique, comme on dit Arnaud Levaux. En quoi consiste-t-elle? Quelle était l'ambition de Deng Xiaoping quand il arrive et qu'il dit qu'il va vraiment s'occuper de la diaspora chinoise et notamment en Asie? du Sud-Est.
Je pense la volonté principale, c'est que cette diaspora disposait de savoir-faire, de capitaux, de capacités d'investissement, et ça a plutôt fonctionné. Pour revenir sur le cas de la Thaïlande, il y a un groupe, le principal conglomérat thaïlandais, CP pour Chulalongkorn Prabkan, voilà, a investi dès 1978 en Chine, à Shenzhen, et est très fier de dire qu'elle a le numéro de licence d'exploitation 0001. Donc ça a été la première entreprise étrangère à investir en Chine au moment de l'ouverture.
Qui fait de l'agroalimentaire, des télécoms, entre autres.
Exactement, c'est un conglomérat qui est d'une taille absolument colossale aujourd'hui, et qui a investi en plus de 200 entités en Chine, et on estime à peu près le total de son investissement à près de 80 milliards de dollars en l'espace de 40 ans, ce qui est phénoménal.
Donc ça c'est aujourd'hui, mais à l'époque de Deng Xiaoping, est-ce que d'ores et déjà il pense à l'époque à ce que peut apporter cette diaspora en termes véritablement de liens commerciaux, se faire les relais, oui c'était ça.
Absolument,
oui,
absolument.
Karine Pina.
Deng Xiaoping avec sa politique de modernisation et d'ouverture sur l'extérieur reprend une politique qui date du 19e siècle, puisque ce sont les Qing qui ont mis les bases de cette politique diasporique et de cette volonté d'utiliser, parce que c'est une vision assez utilitariste de ces diasporas, le savoir, comme vous disiez, le savoir-faire et les capitaux pour aller au 19e, c'était la modernisation. Et donc Deng Xiaoping reprend, mais donc pour une modernisation de la Chine en 1978. Mais globalement, en 1978, lorsque Deng Xiaoping fait cet appel au patriotisme des Chinois d'outre-mer, mais également des compatriotes de Hong Kong, de Macao et de Taïwan, le succès est mitigé. Il est vraiment mitigé, surtout pour les grands entrepreneurs, les tycoons d'Asie du Sud-Est. Pourquoi ? Parce que, donc, du fait des années 50-60 et des problèmes de méfiance que l'on peut avoir vis-à-vis de ces entrepreneurs d'origine chinoise, il n'était pas question d'aller investir comme ça dès que la Chine appelait à le faire. Et par ailleurs, bon, ces grands entrepreneurs étaient quand même des hommes d'affaires, et en 1978, on n'était pas du tout sûr de la voie et surtout de la durabilité de ce changement économique en Chine. Donc, ils ont attendu tout simplement que les États d'Asie du Sud-Est reprennent des relations, leurs États reprennent des relations normalisées avec la Chine, et ils sont venus investir dans le cadre de ces accords.
Donc on parle de quelles années là à peu près ?
Les années 90. Il faut attendre les années 90-92 pour qu'il y ait une réelle normalisation des relations entre la Chine et l'Indonésie, Singapour, et la Malaisie et les Philippines. Et effectivement, ce retour des capitaux de personnes d'origine chinoise, c'est plus inscrit dans une mondialisation économique de retour que d'un capitalisme ethnique. Ça, à partir des années 80-90 que les autorités chinoises se rendent compte que les liens sont distendus avec ces personnalités et qu'on, globalement, on ne peut plus se baser essentiellement sur eux. Et donc, on va se baser sur les nouveaux migrants, les Sinimin. Et les Sinimin ont commencé à quitter la Chine dans les années 80-90.
Et c'est à ce moment-là qu'on commence d'ailleurs à parler de Chinois d'outre-mer. Et non, c'est avant même encore.
Ah oui, le terme de Chinois d'outre-mer date du 18e siècle.
D'accord.
19e siècle, pardon.
Mais alors, Xi Jinping, quand il arrive au pouvoir, il parle, lui, des fils et filles de la Chine.
Voilà,
cette idée de créer une grande famille, donc c'est encore une expression qui lui préexistait.
Et disons que pour le gouvernement chinois, c'est cette définition des Chinois à l'extérieur ou des migrants à l'extérieur est complexe, puisque dans le terme Huatiao, normalement, c'est des Chinois qui vivent à l'extérieur mais qui ont la nationalité chinoise. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les Huajen et les Huayi, qui sont des Chinois, des personnes d'une autre nationalité mais d'origine chinoise. Donc, mais tout ça fait effectivement une grande famille, si l'on en écoute les discours chinois.
Une distinction que vous faites et pour laquelle il faut expliquer que depuis plusieurs années, les Chinois qui sont installés dans des pays d'Asie du Sud-Est ont ont dû choisir entre la nationalité chinoise ou la nationalité de leur pays d'accueil. C'est en 80 que Deng Xiaoping a mis en place cette politique-là, ce qui peut paraître ambivalent, puisqu'il était censé encourager cette diaspora chinoise et créer des liens entre tous, mais il a par ailleurs donné une définition extensive de l'identité chinoise comme une identité culturelle, et donc c'est en ça qu'on dit qu'il a une politique diasporique. Comment Arnaud Levaux, Xi Jinping, quand il arrive au pouvoir en 2012, prend aussi comme levier cette diaspora, notamment pour ses grands projets de nouvelles routes de la soie, la Belt and Road Initiative?
Xi Jinping a effectivement lancé un grand projet de développement, le Belt and Road Initiative, qui n'est pas orienté spécifiquement à destination des pays d'Asie du Sud-Est ou même des communautés chinoises, puisque c'est pour connecter la Chine à l'Europe et à l'Afrique. Donc ce sont des projets qui sont déconnectés, mais sur lesquels il peut s'appuyer au cas par cas sur des entreprises détenues par des Chinois d'outre-mer. Donc je pense que c'est une initiative qui est déconnectée.
Donc c'est une initiative déconnectée, mais pour laquelle de nombreux Chinois qui sont installés dans ces pays d'Asie du Sud-Est ont été contactés. Par exemple, cet hôtelier qui est installé au Laos et qui explique à la chaîne chinoise CGTB comment il a joué le rôle d'intermédiaire entre une société d'aérospatiale chinoise et le gouvernement de Vincennes.
Depuis un moment, le gouvernement du Laos voulait lancer son propre satellite. Il avait décroché une concession pour en envoyer un en orbite sans jamais se lancer jusque-là. C'est à ce moment qu'APT Satellite s'est manifesté auprès des autorités laotiennes pour proposer ses services. Ils m'ont sollicité et je les ai mis en contact avec les instances en charge des nouvelles technologies, des télécommunications, ainsi qu'avec le Conseil des ministres. C'est comme ça qu'ils ont pu négocier.
Alors comment imaginer, Karine Pina, la façon dont cet hôtelier installé au Laos, mais dans d'autres États d'Asie du Sud-Est, sont contactés par la Chine? Est-ce que tout ça se fait de façon très, très l'État central chinois qui vient, dans une forme d'ingérence, commander un peu, présider à l'économie de ces pays d'accueil? Ou est-ce que ça se fait de façon un petit peu plus subtile, en passant par des entreprises publiques, en passant par les provinces chinoises, les communes qui viennent contacter d'anciens ressortissants?
C'est clairement pas le seul attribut, loin s'en faut, de l'État central. Les relations entre des personnes d'origine chinoise, voire des nouveaux migrants, et la Chine, surtout en termes économiques, se traduit par des liens qui peuvent être définis comme multiscalaires. C'est-à-dire que, en fait, ça repose d'abord sur des institutions et sur des pratiques qui sont très anciennes. Les relations notamment économiques, entre les migrants et les zones d'origine n'ont jamais eu besoin de l'État ou du gouvernement, qu'il soit local ou autre, pour exister. Le fait de partir au 18e, 19e siècle, c'était un contrat entre guillemets moral entre ceux qui partaient et ceux qui restaient. Et le contrat, c'était de faire rentrer des ressources, notamment sous les formes de remises, et participer au bien-être du village ou de la région, etc. Donc il y a toujours existé ce lien. Le bénéfice que cherchent à gagner les autorités, c'est de s'appuyer sur les institutions et ces mouvements et ces relations pour les augmenter, voire les diriger dans un sens où le développement économique serait le plus favorable. Donc forcément, on retrouve comme point d'appui les associations. Les associations sont des on va pas toutes les définir, mais les associations, qu'elles soient claniques ou géodialectales ou voire aujourd'hui transversales, sont des institutions majeures et très anciennes de la migration chinoise.
Géodialectales, je ne connaissais pas
cette... Géodialectales, donc Teochew, Hokkien, voire du Hakka, ou du tel ou tel village, Longxi, etc. Donc, ces associations ont pour rôle de maintenir, entre autres, le lien avec les zones d'origine. Les gouvernements locaux et ensuite centrales se basent sur ces associations pour soit contacter quelqu'un Et inversement, ces associations, lorsque dans les années 90, parce que ce lien qui s'est fait notamment avec le tissu économique d'origine chinoise en Asie du Sud-Est et la politique d'ouverture chinoise est hanté la BRI. Hein. Et donc du coup, ça peut être également des hommes d'affaires d'origine chinoise en Asie du Sud-Est qui se sont dit, bah tiens, on va utiliser telle association qui va pouvoir nous mettre en contact avec notre région d'origine ou notre village d'origine et donc utiliser ce corridor pour maintenir, enfin pour avoir des opportunités économiques et vice versa. Donc en fait c'est une relation, disons de win-win comme disent les Chinois, mais qui va dans les deux sens et qui peut effectivement être favorable à certains intérêts économiques en Asie du Sud-Est. Pas tous, hein, mais certains ont utilisé les associations. Ensuite, il est clair que plus les institutions chinoises ont voulu s'intéresser, plus elles ont voulu faire en sorte que ces activités croissent et qu'elles en aient plus ou moins le contrôle, plus elles ont elles-mêmes créé des associations dont l'objectif est effectivement de faire en sorte qu'il y ait des liens économiques, voire plus, entre des personnes d'origine chinoise, voire chinoise, et les intérêts économiques chinois.
Arnaud Levaux, est-ce que c'est aller vite en besogne que de dire que ces associations, mais qui sont très nombreuses et bien sûr on ne peut pas toutes les mettre dans un même sac, mais que ces associations ont servi de base aux triades chinoises, la mafia chinoise qui est largement implantée à l'étranger, la Birmanie, les Philippines, le Cambodge disent régulièrement combien elles ont maille à partir avec cette mafia chinoise. Est-ce que ces associations chinoises issues de la diaspora ont pu à un moment servir de relais aux triades ?
Historiquement, oui, parce qu'en fait, les triades en Asie du Sud-Est étaient en fait les relais des associations locales, qu'on disait ethno-linguistiques. Quand des personnes originaires d'une même ville en Chine se retrouvaient au Vietnam ou en Thaïlande, se réunissaient, avaient besoin aussi de garantir un minimum de sécurité pour leur communauté, ouvrir une école, ouvrir un temple, organiser des funérailles, des mariages, le nouvel an chinois. Il y avait besoin de collecter de l'argent et dans ce canal-là, certaines personnes un peu moins honnêtes s'y sont engouffrées. Mais ces associations ont aussi joué un rôle important dans le cadre de la révolution chinoise. Elles ont financé les mouvements, parce que beaucoup étaient quand même des loyalistes Ming contre la dynastie Manchu. Sun Yat-sen, hein, le père fondateur de la République de Chine, était membre d'une de ces associations et a reçu énormément de financement de la diaspora chinoise en Asie du Sud-Est. Ensuite, aujourd'hui, on est dans une nouvelle dimension. Beaucoup de ces associations existent toujours. Elles ont une façade légale tout à fait honorable. Et par contre, il peut y avoir des connexions entre membres de certaines associations pour des activités moins licites.
Karine Pina, est-ce qu'aujourd'hui, même s'il faudrait faire une émission entière sur les triades, et je signale d'ailleurs la sortie d'un livre du journaliste Antoine Vitkin, une enquête réellement sur les triades, il ne s'agit pas ici d'en faire l'enquête, mais Karine Pina, est-ce qu'on est plutôt, par exemple aux Philippines que vous connaissez bien, où le président Duterte fils a annoncé la fermeture de tous les casinos en ligne. Est-ce qu'on est là dans une diaspora chinoise récente ou qui s'appuie sur toutes ces sédimentations, ces couches différentes d'immigration que vous avez décrites depuis le début ?
C'est une nouvelle couche. C'est-à-dire que on sait que à la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu de plus en plus de mobilité autorisée. Et les profils se sont diversifiés, donc ça peut être également des personnes qui cherchent les aventures, etc., et qui essayent également de jouer sur les opportunités que les États d'accueil leur offrent. Et effectivement, les Philippines, mais ce n'est pas que les Philippines, hein, ont développé de manière assez importante l'économie des casinos. Et de fil en aiguille, on est arrivé au casino en ligne. Donc forcément, qui dit casino dit argent, qui dit jeu et argent dit forcément également triade ou organisation criminelle. Donc c'est un bon moyen à la fois de gagner beaucoup d'argent et c'est aussi un bon moyen de blanchir aussi beaucoup d'argent. Donc effectivement, on a aujourd'hui des activités criminelles où beaucoup de Chinois seraient impliqués. arrêter, hein, puisque on en arrête, on en expulse, hein, que ce soit au Cambodge, en Birmanie.
En Birmanie, 40 000 personnes extradées l'année dernière en pleine guerre.
Exactement. Et essentiellement donc dans ces industries du jeu en ligne qui nécessitent donc l'implantation d'infrastructures et beaucoup beaucoup de main d'œuvre. Donc aujourd'hui, semble-t-il, les Philippines décident de faire un revirement total, hein, puisque bon, c'est tous ces casinos et tous ces lieux et cette activité étaient légales jusqu'à présent. Il s'avère que leur exploitation et surtout la manière dont on exploite la main d'œuvre, parce que on fait venir des travailleurs, mais alors qu'ils soient chinois ou cambodgiens ou autres, que l'on exploite, qui sont dans des conditions absolument dramatiques. Et donc, le gouvernement philippin a décidé de fermer ses activités. Mais le fléau de ces activités touche toute l'Asie et notamment rend addict aussi un certain nombre de personnes, que ce soit à Singapour ou en Malaisie.
D'où des réactions aussi très diverses au sein de ces diasporas chinoises d'Asie du Sud. Certaines se font toutes petites pour ne plus du tout qu'apparaissent leurs origines chinoises, jusqu'à dessiniser, comme on dit, leur nom de famille ou tout simplement rejeter l'identité chinoise. Et puis tous ceux qui continuent quand même à revendiquer leurs origines, à en être fiers aussi pour ces liens culturels, ce rapport affectif et culturel qu'ils entretiennent avec leur pays d'origine. C'est le cas par exemple de ce chanteur né à Singapour mais d'origine chinoise, il s'appelle Ji Jilin.
Dans tous les cas, ça peut
Excusez-moi, on est de retour en direct, mais vous avez tellement de choses à dire tous les deux, Arnaud Levaux et Karine Pina. On comprend, c'est un sujet très très vaste sur lequel vous travaillez tous les deux depuis de longues années. Je voulais juste présenter ce chanteur, donc né à Singapour il y a 44 ans, J.J. Lin. Il a notamment participé à la bande-son du film Marvel Shang-Chi, un super-héros d'origine chinoise. Lui, il est très influencé par sa formation en musique classique chinoise. Il est lui-même d'une famille hokkien, donc d'origine chinoise, comme il y en a tant à Singapour, et c'est même bien plus à Singapour qu'une diaspora.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
On est à l'extrême sud de la Malaisie, dans la cité-état de Singapour, territoire parmi les plus riches du monde et où 74% de la population est chinoise ou d'origine chinoise. Et même si ses dirigeants se méfient de l'ingérence chinoise, les nouveaux venus se disent quand même plutôt bien accueillis.
En tant que chinoise, je me suis toujours sentie extrêmement bien accueillie à Singapour. Je n'ai jamais subi de discrimination de genre, de race ou de nationalité. J'ai vécu aux États-Unis et un peu partout dans le monde, hormis le Moyen-Orient et l'Afrique. Et Singapour est vraiment le seul pays où, quand ils voient mon passeport, les gens disent « Vous êtes chinoise ? Waouh !»
Bonjour Eric Frécon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis Canberra en Australie, où il est 21h42. Je vous remercie beaucoup de prendre un petit peu de temps pour Culture Monde. Vous êtes chercheur à l'Australian Strategic Policy Institute. Vous avez écrit pour l'IRSEM une note sur l'influence sécuritaire chinoise à Singapour. D'abord, comment expliquer cette très grande part de Chinois ou de Singapouriens d'origine chinoise dans la population ?
Oui, effectivement, on a 74% de Chinois dans la population parmi les citoyens singapouriens. Puis en plus, la grande majorité des travailleurs étrangers sont aussi d'origine chinoise. En fait, alors si je mets à part les marchands qui faisaient escale dans la cité entrepôt même avant Singapour, 13-14e siècle, dès le début de Singapour moderne, en 1819, on a eu besoin de porteurs, on a eu besoin de personnes dans les plantations. Donc il y a eu afflux de coolies et de travailleurs chinois. en même temps attirés par l'essor, l'expansion de Singapour. On a eu des entrepreneurs qui venaient de chinois, mais qui venaient de Malacca, plutôt la péninsule malaise. Et très spécifiquement, hein, on avait ce groupe Peranakan, qui est un métis chinois malais, et eux aussi sont venus à Singapour. Donc ça a grossi les rangs des communautés chinoises. Je dirais pas de la diaspora chinoise, parce qu'en fait c'était très fragmenté par regroupement ethnique. Tous venaient plutôt du sud de la Chine, mais tous étaient regroupés dans diverses associations. Et ensuite, il a fallu attendre pas mal de temps, le début du XXe siècle, pour qu'il y ait des femmes qui viennent, pour qu'ensuite on ait à faire une installation un peu plus pérenne, qu'il y ait des familles qui se créent. Et de petit à petit, c'est comme ça qu'on a eu même un sentiment un peu de une bascule d'appartenance à Singapour, en coupant les liens un peu plus avec la maison mère chinoise. Alors, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, où cette idée qu'il fallait protéger Singapour. Puis après, l'indépendance de Singapour, où là, il fallait se protéger de l'influence malaise. Et c'est là où Singapour s'est détaché de la Malaisie. Et donc là, on a eu une communauté chinoise qui était devenue cette fois-ci très singapourienne.
Parce que comme vous le rappelez, Eric Frécon, Singapour a été pendant quelques années, après son indépendance en 65, un État fédéré de Malaisie dont elle s'est séparée donc, à un moment. Mais plusieurs cultures coexistent à Singapour, par définition. Il y a une population malaise, une population indienne et donc cette très forte population d'origine chinoise. Comment est-ce qu'elle coexiste entre elles? Comment ces cultures aussi assez différentes coexistent?
Alors, elles coexistent officiellement très bien. Il y a ce qu'on appelle la racial harmony. Donc, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde vit en bonne entente. Alors, après, si on creuse un petit peu, moi, je vous dirais qu'ils vivent plus côte à côte qu'ensemble, c'est-à-dire sans trop se mélanger. Alors, là-bas, on parle de race, hein, mais c'est le vocable officiel. Chaque race a son propre média, ses propres endroits où aller dîner, déjeuner, parce que là-bas, on mange beaucoup dehors. Donc, c'est assez fragmenté. Et même pire, je dirais, alors là je cite Michael Barr, qui est un chercheur australien qui travaille sur Singapour, qui lui a parlé avec un de ses collègues d'ethno-nationalisme chinois. C'est-à-dire, il y a eu un moment où Singapour a voulu reprendre le contrôle de sa communauté chinoise. Donc dans un premier temps, ils ont interdit les dialectes, imposé le mandarin, donc ça c'était pour interdit aussi toutes les associations claniques ou secrètes, donc ça c'était dans un deuxième temps. Mais ensuite, il y a eu cette idée de donner la prédominance à la majorité chinoise. C'est pour ça que, par exemple, vous avez les Malais se considèrent un peu comme la dernière roue du carrosse. Vous n'aurez jamais un général ou un amiral malais. Dans les cabinets ministériels, tous les postes sont donnés aux Chinois. Et par exemple, il y avait une mini-controverse comme quoi, lors des précédentes élections, le Premier ministre candidat disait « Non, Singapour n'est pas prêt pour avoir un Premier ministre autre que Chinois. »
Alors, d'ailleurs, cette période que vous avez décrite, Eric Frécon, comme une période où on interdit le cantonais, parce que beaucoup de Chinois de Singapour parlent le cantonais puisqu'ils viennent pour la plupart de la province la plus méridionale de Chine qui est Hainan. Donc cette époque-là, c'était à partir de 59 jusque dans les années 90, sous un dirigeant de Singapour qui était lui-même d'origine chinoise. C'est surprenant. Quelle est son histoire à Lee Kuan Yew? Excusez-moi de peut-être pas très bien le prononcer. Et pourquoi ensuite il a changé son fusil d'épaule?
Non, Lee Kuan Yew, c'est passionnant parce qu'effectivement, c'est le père fondateur de Singapour. Quand il est décédé en 2015, limite, on se demandait si Singapour allait survivre à sa mort. Donc, Lee Kuan Yew, au début, il fait des études à Cambridge et il se fait appeler Harry. Donc, il était très occidentalisé, etc. Et puis après, il y a eu une bascule. Alors, je ne sais pas de quand la dater. Il y a eu cette bromance, j'ai envie de dire, avec
Deng Xiaoping,
là, en 78, où là, il y a une première rencontre, le courant passe bien. En 90, Singapour bascule, abandonne Taïwan et bascule côté chinois. Et puis là, donc on a ce qu'on appelle les valeurs asiatiques. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais bon, c'est capital dans les années 90. Comment expliquer le miracle asiatique? C'est simple, on a des valeurs que vous, Occident, n'avez pas, et notamment le confucianisme en ce qui concerne Singapour. Donc là, il y a eu... on a accentué toutes ces valeurs confucéennes. Lee Kuan Yew s'est mis à s'habiller avec un costume Mao. Il posait toujours avec Confucius derrière lui. Certains disent qu'il s'est même remis à apprendre le chinois qu'en fait, il ne maîtrisait pas tant que ça. Et donc, il y a eu cette connexion avec la Chine très forte. Même des Singapouriens allaient exporter en Chine soit des conseils, soit leur réussite en termes d'urbanisme et de fermes géantes d'ailleurs aussi en Chine. Donc ça a été très important. Alors après, la question, est-ce qu'on est n'est pas allé un peu trop loin parce qu'il y a eu cette crise en 2016-18 où là, ça a été un peu tendu parce Alors justement, c'est l'époque où Singapour était le co-chair, co-président du groupe ASEAN sur les nations d'Asie du Sud-Est, Chine. Puis après, en 2018, il allait présider, il y a une présidence tournante l'ASEAN. Et certains, la Chine en voulait un petit peu à Singapour d'avoir trop porté la voix de ceux qui avaient des soucis, des revendications en mer de Chine. Et là, chose assez inouïe. Pour Singapour, qui est d'habitude très pusillanime, qui ne hausse pas le ton, ils se sont un peu élevés contre la Chine en se permettant de renvoyer hors de Singapour un professeur qui était déclaré comme influent, un agent d'influence extérieure. Ils se sont plaints aussi des appels des ambassadeurs, des associations claniques qui disaient « retournez à la maison mère, à la maison natale, au China mainland, dans le continent, pour retrouver vos racines et le village de vos ancêtres ». Et là, Singapour a dit « mais arrêtez, nous sommes chinois, mais chinois de Singapour ». Et donc c'est intéressant, par exemple, vous aviez la Chambre du commerce et de l'industrie chinoise, qui était là depuis 1906, je crois, et en 2017, le fils de Lee Kuan Yew, parce qu'on parle de démocratie, mais c'est le même parti au pouvoir depuis 1959, et donc le fils a succédé au père, et là le fils, Lee Hsien-loong, donc a dit « on va créer un centre culturel chinois, mais singapourien », donc un peu en réponse au centre, à la Chambre du commerce et de l'industrie.
Pour la concurrencer.
Donc voilà, il y a eu cette période un peu tendue. Maintenant, aujourd'hui, ça y est, c'est reparti, il y a encore des coopérations.
Avec un tout petit mot pour conclure, Eric Frécon, c'était au tout début de l'épidémie de Covid, on avait vu à Singapour des pétitions pour interdire la venue de touristes chinois dans un pays où les trois quarts de la population est d'origine chinoise. Est-ce qu'on peut parler d'un racisme anti-chinois? Ça paraît très surprenant de se dire qu'on a entendu beaucoup...
Ouais. Alors, si je peux me permettre, mais effectivement, là, en réaction aux commentaires que vous avez fait passer, moi, donc, j'ai vécu 10 ans à Singapour et mon boss, mon patron, quand j'ai démarré, m'a dit, Eric, tu verras, le souci, c'est pas tant maintenant les émeutes entre races comme on a pu avoir dans la fin des années 60, c'est entre les nouveaux Chinois et ceux qui sont là depuis très longtemps. Et les nouveaux Chinois, c'est pour ça qu'il faut distinguer les foreign talent, ceux qui ont vraiment un talent à apporter, même dans le sport, dans les affaires, etc., et les foreign workers qui font les bases d'œuvres et qui envahissent le métro, etc. Et là, il y a une claire xénophobie à leur encontre. Et étonnamment, ce sont les partis les plus libéraux, plus pro-démocrates, qui sont en fait les plus pro-préférence nationale. Le gouvernement, lui, sait qu'il a besoin de cette immigration.
Merci beaucoup, Eric Frécon, chercheur à l'Australian Strategic Policy Institute. Et vous êtes l'auteur de la note « L'influence sécuritaire chinoise à Singapour » pour l'IRSEM. Bonne soirée à vous et bonne nuit, puisque vous étiez à Canberra, où il est bientôt 22h. Merci d'avoir été avec nous, nos deux invités, Karine Pina et Arnaud Levaux vous ont écouté avec beaucoup d'attention, aussi parce que vous avez tous les deux vécu longtemps et travaillé à Singapour. Vous les avez vus s'entrechoquer ces cultures-là, cette nouvelle génération d'immigrés chinois, Arnaud Levaux, qui se confronte à ceux qui sont là depuis très longtemps.
Oui, et d'abord, ils ne parlent pas la même langue. Les Chinois installés à Singapour parlent des dialectes chinois, beaucoup le Hokkien, le cantonais, le Hakka, et maîtrisent l'anglais. Les nouveaux arrivants ne parlent pas anglais et ne parlent que le mandarin. Donc ils ne se comprennent pas, ils ne vont pas dans les mêmes endroits, ne vont pas dans les mêmes boutiques, et c'est vraiment deux mondes qui vivent côte à côte.
Karine Pina, est-ce qu'ils sont quand même accueillis par des associations de Singapouriens ?
Il y a quand même une chose qu'il faut mettre en avant, c'est que ces personnes ont été accueillies alors qu'elles soient très bien doté, que ce soit en capital ou en savoir-faire, parce que Singapour commençait à décliner au niveau démographique et avait peur justement que la population d'origine chinoise baisse. Et donc c'est dans un souci aussi de rééquilibrer justement donc ces différentes cultures, enfin ces différentes races, comme on dit à Singapour, que l'on a mis en place, que le gouvernement de Singapour a mis en place une politique d'accueil assez favorable à l'immigration chinoise. Ensuite, donc ceux qui viennent ont beaucoup 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 de moyens et surtout de moyens financiers, sont très éduqués et maîtrisent beaucoup de savoirs et savoir-faire qui sont utiles à Singapour.
Merci beaucoup à tous les deux. On a bien entendu que quand on parle des Chinois en Asie du Sud-Est, on ne peut pas parler d'une diaspora, mais bien des diasporas au pluriel. Merci Karine Pina. Je rappelle l'ouvrage que vous aviez fait paraître aux éditions Ellipse, La Chine et sa nouvelle diaspora, la mobilité au service de la puissance. Merci beaucoup Arnaud Levaux. Le destin des fils du dragon a paru chez L'Harmattan. Vous êtes professeur associé à Dauphine et vous avez tous les deux des projets d'écriture pour renouveler aussi toute cette recherche autour des diasporas chinoises en Asie. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous nous emmenez d'abord, Catherine, en République démocratique du Congo ce matin. Goma, la grande ville de l'Est de la RDC, est à la merci du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda.
Situation volatile autour de Goma, titre Radio Okapi en RDC, mais sur la BBC et la Deutsche Welle, la radio internationale allemande, on apprend que les rebelles du M23 revendiquent aujourd'hui la prise de Goma. Et ce, après une journée d'intenses combats hier avec l'armée congolaise dans la capitale du Nord Kivu, Goma, où vivent 2 millions de personnes, la moitié sont des réfugiés. Les habitants ont partagé des vidéos des rebelles patrouillant dans les rues principales de Goma, rapporte la BBC, et si cela se confirme dans les heures qui viennent, ce serait un énorme avantage stratégique et psychologique pour le groupe armé anti-gouvernemental, donc du M23, et les 3000 à 4000 soldats rwandais qui les soutiennent dans l'est de la RDC, explique le média Le Djeli. Le président congolais Félix Tshisekedi en est lui réduit à quémander l'appui du Conseil de sécurité de l'ONU, raille encore Le Djeli. La crise humanitaire pendant ce temps s'aggrave dans le Nord Kivu, c'est l'alerte de Radio Okapi, tous les camps de déplacés se sont vidés de leurs occupants, empaquetés ses affaires au plus vite. Fuite à toute allure et à moto, nous montre VOA Africa, la radio financée par le Congrès des États-Unis. Une fuite à pied également, avec des colonnes de femmes et d'enfants, bidons d'eau en plastique accrochés à la taille, d'énormes sacs de vivres ou de vêtements en équilibre sur leur tête ou sur leur dos, des enfants parfois portés en écharpe. Des civils effrayés qui se baissent à chaque coup de feu entendu en périphérie de Goma. Pour celles et ceux qui ont déjà dû fuir à plusieurs reprises les combats qui ensanglantent le Nord Kivu depuis des années, l'amère impression que la guerre les rattrape à chaque fois, explique la BBC. Nous entendons des bombes tout autour de notre camp de déplacés. C'est pour ça que j'ai décidé de fuir, pour ne pas mourir là-bas, explique Adèle Chimillé dans une vidéo de l'agence de presse AP, relayée notamment par VOA Africa. Nous allons à Goma, poursuit la jeune congolaise. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des bombardements là-bas aussi. Alors maintenant, on ne sait plus où aller. Où se mettre en sécurité, tempête une autre jeune femme qui s'est fait renverser par une voiture alors qu'elle traversait une route. Elle appelle le président congolais Félix Tshisekedi à trouver une solution, note le Manila Bulletin, et s'il n'y arrive pas, à démissionner. Félix Tshisekedi se révèle cruellement décevant, estime le Djeli, incapable de remettre l'armée à niveau, ce qui explique qu'il fasse appel à des mercenaires, à des sociétés de sécurité privées, des mercenaires européens, bulgares, roumains, conseillent et soutiennent l'armée congolaise dans le Nord Kivu, révèle en Allemagne Die Tageszeitung. Aujourd'hui, les routes sont bloqués dans et autour de Goma. L'aéroport ne peut plus être utilisé pour l'évacuation ou les efforts humanitaires. Nous sommes pris au piège, résume la représentante spéciale de l'ONU pour la RDC, citée par la Deutsche Welle. Peu d'espoir de voir advenir la paix, selon le journal burkinabé Le Pays et selon l'Institut de sécurité ISS Africa. Les rebelles du M23 cherchent à s'emparer de terres et de minéraux rares du Congo, comme le coltan, essentiel à la fabrication des téléphones portables, précise la BBC, face à eux, notamment les FDLR, un groupe armé formé par d'anciens hauts responsables Hutus du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 et depuis réfugiés en RDC.
À l'occasion du 80e anniversaire de l'ouverture du camp d'Auschwitz-Birkenau, Catherine Dutu, vous nous parlez aujourd'hui de l'ouverture de la maison du commandant du camp de la mort.
Celle de Rudolf Höss, qui a fait l'objet du film oscarisé de Jonathan Glazer, La zone d'intérêt. Cette maison ouvre ses portes sur un passé terrifiant, explique le New York Times et Polskie Radio, la radio publique polonaise. La vie de la famille Höss était joyeuse, écrit CNN. Les enfants ont joué avec des tortues, avec des chats. Pendant ce temps, les cheminées du camp d'extermination crachaient de la fumée. Le mur du jardin de cette villa était le mur du camp d'Auschwitz où plus d'1 100 000 hommes, femmes et enfants ont été exterminés. Et depuis, la fenêtre du deuxième étage de la villa, rappelle le Guardian, la famille pouvait voir l'ancien crématoire où Höss expérimentait le zyklon B. Des prisonniers du camp travaillaient dans leur maison et dans leur jardin, mais aujourd'hui, indique le Jerusalem Post, la maison ordinaire du plus grand meurtrier de masse est désormais convertie en un symbole extraordinaire pour prévenir la haine et l'antisémitisme qui s'emparent de nouveau de notre société. L'occasion de rappeler aussi qu'il y avait une vie autour du camp de concentration concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau que des travailleurs, des voyageurs passés près ou dans le camp. C'est aussi ce que l'on peut voir au mémorial de la Shoah à Paris dans une exposition sur les crimes photographiés par les nazis eux-mêmes. Des dizaines de clichés ont été revus et redécryptés, notamment par l'historien Tal Brutmann que j'ai interrogé. Un entretien à retrouver à la page internet de la revue de presse internationale sur le site de France Culture. Sur ces photos, censées servir d'outils de communication et de propagande au régime nazi, au-delà de la déshumanisation entreprise par les photographes, on peut voir des actes de résistance avec des femmes et des enfants notamment qui tirent la langue dans cet album d'Auschwitz. Regard défiant aussi de certains hommes face aux photographes. Exposition donc à voir au mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au 13 novembre prochain.
Merci beaucoup Catherine Dutu.